Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Bien le bonjour, chers amis. Nous sommes ravis, Gauthier et moi-même, de vous retrouver pour une nouvelle saison sur les ondes de Radio Présence et des radios partenaires. C'est la sixième année que Radio Présence nous permet de vous conter les aventures de la musique contemporaine des années 50 jusqu'à demain, et nous les remercions encore pour leur confiance renouvelée. Et je me tourne vers Gauthier, la tête pensante de Thérapie Pop, pour savoir s'il a passé un bel été.
Écoute, studio en tout cas.
Studio, t'as bien bossé?
Ben pour préparer cette saison.
Bon, on va vérifier ça dans quelques instants. Une petite nouveauté cette année et pas des moindres, le format de l'émission change. Nous l'avons volontairement raccourci de moitié afin de pouvoir continuer de vous retrouver chaque semaine mais dans un format plus concis et nous l'espérons plus accessible à tous. Et puisque désormais le temps presse, nous allons commencer cette saison avec un chouette morceau qui a fêté ses 40 ans cet été et qui, contrairement à d'autres, a connu une seconde jeunesse en 2022 grâce à la série Stranger Things. Vous l'aurez deviné, c'est bien de Running Up That Hill de Kate Bush dont il va être question aujourd'hui. Si mes calculs sont bons, il est donc sorti en 85 et on va vous expliquer comment il est devenu l'un des titres les plus emblématiques de la fin du XXe siècle. On va commencer par le commencement, Gauthier. Comment est-ce que Kate Bush a écrit ce morceau?
Alors écoute, elle a écrit à l'été 83. C'était sa première composition et donc la plus célèbre de l'album qu'elle allait sortir et dont elle serait tirée et dont il serait le fer de lance, l'album Hounds of Love, qui se remarque par la qualité de sa composition et aussi par la laideur de sa pochette qui est absolument invraisemblablement moche.
On ira voir ça. Comme souvent avec les tubes, l'écriture est faite en effet en quelques instants, comme ça vient. Et avant que Gauthier nous raconte la construction et l'enregistrement de ce morceau, je vous annonce qu'on se l'écoutera juste après. Donc écoutez religieusement ce que Gauthier va nous dire afin de repérer toutes les finesses de cette chanson. Gauthier, je et nous sommes tous oui.
Bon, je rentrerai pas dans une analyse musicale. Théo, tu m'as reproché l'année précédente parfois d'être un peu trop technique. Non, ce qu'on peut noter dans le processus d'enregistrement de cette chanson, c'est le côté presque familial en fait. Kate Bush va installer un studio qu'on pourrait qualifier de domestique à East Wickham Farm. Donc en gros, comprenez qu'elle enregistre quasiment à la maison. Et elle va enregistrer tellement à la maison qu'elle sera quasiment avec les membres de sa famille. On retrouve notamment comme bassiste et ingénieur un dénommé Dal Palmer, qui n'est rien d'autre que son compagnon, je crois, de l'époque. Je ne sais pas s'il est resté après coup, je ne suis pas allé vérifier sa situation matrimoniale, et puis je m'en fous. On va retrouver également, détails techniques non négligeables, d'autres musiciens, Stuart Elliott à la caisse claire, par exemple, Alan Murphy, mais aussi Paddy Bush, à savoir son frère qui joue de la balalaïka. Hein, vous irez voir ce que...
Ouais, bah on va l'entendre.
Voilà, sur le refrain. Donc comprenez que on enregistre à la maison avec son compagnon, son frère, dans une espèce d'ambiance assez feutrée, assez au coin du feu. À noter aussi un autre intérêt qu'on retrouve régulièrement chez Kate Bush, mais elle a une formation de musicienne un peu classique, et le riff principal de cette chanson est un sample de violoncelle, donc simple, comprenez, une espèce d'extraction
on va bien l'entendre.
Voilà, de violoncelle. C'est récurrent chez elle, on trouve souvent justement des orchestrations type, on va dire, musique classique. Alors, on fait de la pop, donc bien évidemment, on va pas faire un opéra, mais on va prendre une petite boucle qui pourrait figurer au sein d'un opéra et qu'on va bien évidemment répéter de façon lancinante pour en faire un tube. Voilà.
Bon, et je le rappelle, le titre de ce morceau, c'est Running Up That Hill, mais c'était pas le titre original, Gauthier.
Non. Au départ, elle avait l'idée de l'appeler A Deal With God. Je crois d'ailleurs qu'on l'entend formuler cette phrase au cours de la chanson, et même, je crois, à plusieurs reprises. Et en fait, c'est son label EMI, label éminemment connu, qui jugera le titre trop provocateur. On est en 83, EMI, vous êtes encore peut-être un peu trop puritain à ce moment-là, les punks sont passés et tout, mais A Deal With God, pour les moins anglophones d'entre vous, ça veut dire en fait
un accord avec Dieu.
J'allais reprendre le mot deal, je suis tellement trumpisé que je vois ça, voilà, que le mot deal me paraît une évidence.
The art of deal.
Voilà, et donc en fait on gardera Running Up That Hill, et A Deal With God apparaîtra en sous-titre entre parenthèses. On n'enlèvera pas complètement la création de Kate, mais on lui demandera quand même de l'assagir.
Bon, et de quoi on parle ?
Écoute, On parle
de Deal with God.
Ouais, on parle de choses, bon, de thèmes qu'on entend quand même assez régulièrement dans la musique pop-rock, des relations hommes-femmes, plus précisément du désir d'échanger les rôles entre les hommes et les femmes. Quel homme n'a pas un jour rêvé d'être dans la peau d'une femme, et quelle femme peut-être n'a pas un jour rêvé d'être dans la peau d'un homme, pour, dans l'esprit de Kate Bush, éventuellement arriver à mieux se comprendre. Notre chère Kate était déjà très en avance sur les problématiques de compréhension entre les hommes et les femmes. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de vous citer certaines paroles en anglais, parce que je vous les massacrerai, mais ça me confirme qu'il y a des biens « Deal with God » dans les paroles. « If I only could, I'd make a deal with God ». Voilà. En fait, l'idée, c'est une métaphore de l'empathie et de la quête d'une compréhension mutuelle entre les hommes et les femmes. On se comprenait déjà.
Je traduis, si je le pouvais, je passerais un accord avec Dieu et je lui demanderais d'échanger nos places.
Un sujet qui reste foncièrement d'actualité quand notre cher Gérard Depardieu vient d'être renvoyé aux assises pour viol.
Mais c'est plein de... C'est incroyable comme cette thérapie est vraiment suit l'actualité au jour le jour.
C'est la nouveauté aussi de cette année, on essaie d'introduire des sujets d'actualité en plein milieu. Je ne vois absolument pas le rapport d'ailleurs au demeurant entre la situation de Gérard Depardieu et la chanson de Kate Bush, mais j'avais rien d'autre sous la main, mon cher Théo, donc j'ai donné ça.
Alors, avant de parler de la réception de ce morceau, j'enchaîne hein, Gauthier, avant de parler de la réception de ce morceau à sa sortie et de la cure de jouvence qu'il a connue il y a quelques années, bah, je vous propose qu'on se l'écoute comme promis, Running Up That Hill de Kate Bush. C'est donc Running Up That Hill de Kate Bush. J'espère que ce morceau vous plaît. En tout cas, Gauthier, il a plu à la plupart lors de sa sortie en 85.
Oui, il sort en 85, à l'époque où Kate Bush est quand même, sans dire au fait de sa gloire, quoique, on pourrait aussi dire.
Pas loin. Ouais.
Ouais, c'est une troisième place au UK Single Charts. C'est le classement de l'époque en Angleterre pour cette chanson. Son meilleur classement, depuis une chanson que vous connaissez tous, que vous pourrez aller écouter, c'est Wuthering Heights, en hommage au livre de notre chère Brontë.
Oui. Émilie Charlotte Brontë, ou Émilie ?
Émilie, oui, Brontë. Nomination, reconnaissance critique, etc. Il sera classé parmi les 500 meilleures chansons de tous les temps du magazine Rolling Stones. Je précise que le magazine Rolling Stones ne prend pas en compte les chansons de Jules, etc. C'est un magazine pop-rock, hein, bien évidemment, comme son nom l'indique.
Et donc, comme on le disait, c'est un morceau qui est revenu à la mode de façon assez inattendue et fulgurante en 2022. 2022, Gauthier.
Et oui, parce que en fait, l'histoire de cet album, au-delà du fait qu'on fête son anniversaire ce mois-ci, c'est la saison 4 de Stranger Things, où la chanson va être diffusée et va devenir une sorte de mème, je ne sais pas comment on doit dire.
Stranger Things, je replace un peu dans le contexte, succès, série au succès mondial.
Ouais, monstrueux. Mm. Et cette chanson va marquer les oreilles de nos jeunes auditeurs. Elle va passer à plus de 8000% de hausse dans ses streamings, ce qui est énorme.
C'est colossal.
C'est beaucoup. 8000%, ça fait beaucoup. Déjà parce que c'est pourcent et 8000, ça fait beaucoup. Elle va rester au sommet des charts mondiaux, etc. Enfin, ça va être énorme. Et elle va battre plein de records, dont un record qui est très intéressant. Alors, plus long délai pour une numéro 1, etc. Bon, peu importe. Un record qui est très intéressant, c'est qu'elle va être l'artiste féminine la plus âgée, à 63 ans, en tête des charts. Ce qui renvoie un peu, mon cher Théo, et vu qu'elle en parle, à la place des femmes dans la musique. Ouais. Et dans
Madonna l'a pas fait, ça ?
Eh bien, apparemment, non. Ouais. En tout cas, pas dans les places UK, qui montrent que, en fait, assez peu de femmes âgées ont le privilège, entre guillemets, d'avoir cette audience du Alipa. Toutes ces femmes sont assez jeunes. Ce qui renvoie peut-être...
La relève.
La relève ou peut-être une forme de péremption qu'on accorde un peu trop rapidement aux artistes féminins. Je sais pas.
Oui, ou peut-être que certains masculins auraient mieux fait de s'arrêter à temps, genre...
Rolling Stones ?
Mick Jagger. Et tu as quelques anecdotes supplémentaires à nous livrer avant de se quitter, Gauthier.
Oui, très rapidement, de rappeler que Kate Bush elle-même ne s'attendait absolument pas à ce succès, mais bon, bien évidemment, 20 ans ou 30 ans ou 40 ans après l'enregistrement sa chanson. Elle gardera toute sa vie par contre un contrôle très strict sur l'usage de sa musique qui a été reprise par Placebo, Saint Vincent, Chromatics et tout. Mais ce qu'on entend, c'est toujours la version de 85, alors réenregistrée pour les JO de Londres en 2012 avec une voix un peu plus grave parce que Kate Bush avait tendance à monter très haut dans les aigus.
Ah bon ?
Ouais, assez haut. Mais voilà, une artiste quand même qui a toujours gardé un contrôle très strict, et ça aussi c'est important pour des artistes et particulièrement des artistes féminins, sur sa création musicale. Voilà.
Vous l'aurez compris, il y a 40 ans, Kate Bush a sorti un tube et je crois que le monde n'a toujours pas fini de l'écouter. Je vous invite toutefois à découvrir l'album Hands of Love dont il était le premier single car c'est l'un des plus emblématiques de Kate Bush. Nous espérons que le nouveau format de Thérapie Pop vous a plu et on vous retrouvera avec plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle thérapie. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence, des radios partenaires et bien entendu sur toutes les plateformes de podcast. Une belle semaine à vous, une belle semaine à toi, Gauthier.
Salut, mon cher Théo.
Et à la semaine prochaine, salut.